Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Nous avons pu constater lors de la dernière émission, toujours sur le thème rêve et symbole, que Freud considère le symbole comme une sorte de langage universel. Dans le cadre du fonctionnement de l'appareil psychique, le symbole est ce trait d'union qui permet de rassembler l'inconscient et le conscient, aussi opposés soient-ils, en particulier grâce au rêve. En partant de cette hypothèse, le symbole est un langage maîtrisé par l'ensemble des êtres humains, quelle que soit l'époque et quel que soit le lieu. Alors, on comprend mieux pourquoi Freud s'est intéressé à des productions humaines aussi diverses que les sociétés dites primitives, qui a ouvert la voie à l'ethnopsychanalyse, mais aussi aux personnages mythiques de Moïse, et d'une manière générale, les grands mythes de l'Antiquité, d'où émerge la célèbre figure d'Œdipe, ou encore à la sculpture, à travers le Moïse de Michel-Ange, la biographie de Schreber, entre autres, et autres. Bref, tout un ensemble de productions dont Freud n'a jamais pu rencontrer les créateurs, même pas Schreber, qui pourtant était un contemporain. Cela paraît a priori étonnant pour quelqu'un d'une telle rigueur et qui insistait pour que les productions de l'inconscient, et toute création humaine est une production de l'inconscient, soient interprétées par le sujet lui-même et lui seul. Alors, selon quelle autorité Freud s'est soustrait à ses propres principes pour interpréter ces différents objets? Aucune. Car la structure et le fonctionnement de l'appareil psychique sont universels, selon Freud. Pour le psychanalyste viennois, l'inconscient s'exprime par le truchement du symbole, langage universel de l'humanité. Ainsi, lorsque Freud ose appliquer ses préceptes psychanalytiques et sa méthode d'interprétation à des productions humaines aussi variées, ce n'est pas pour les interpréter à la place de leurs auteurs, qui ne peuvent pas lui opposer un droit de réponse. Non. C'est avant tout, pour Freud, un exercice de style qui lui permet de démontrer sa théorie. La structure et le fonctionnement de l'appareil psychique sont universels, et le symbole est son langage. Mais chaque individu est différent. D'ailleurs, on entend souvent revenir dans le monde psychanalytique l'expression de singularité du sujet. Le symbole, sorte de langage universel, est maîtrisé par tout le monde, mais il s'exprime différemment chez chacun. Ce constat est évident dans le cas des langues parlées. Exemple. Dans un groupe donné, peu importe la taille, tout le monde parle la même langue, le français. Eh bien, vous ne trouverez pas, parmi l'ensemble de ces locuteurs francophones, deux personnes qui s'expriment de la même manière à travers cette langue. Il en est de même avec le symbole, maîtrisé par tous, mais utilisé de manière singulière par chacun. L'un des modes d'expression privilégiés de l'inconscient et bien entendu le rêve, production journalière massive pour celles et ceux qui parviennent à s'en souvenir. Le rêve, comme j'ai l'habitude de le définir, est le message de l'inconscient qui parle au conscient. Un message cependant codé, sous forme de symbole, qu'il faut décrypter. En tant qu'analyste de rêve, je peux témoigner que je n'ai jamais rencontré deux rêves identiques entre des patients différents. Et je pense que cela n'arrivera jamais. Car si le fonctionnement de la psyché est universel, chaque personne est unique, et il me semble important d'insister sur ce point. Par contre, il n'est pas rare qu'une personne se plaigne de rêves récurrents qui perturbent ses nuits et son sommeil. Ces rêves récurrents, parfois changeants, sont le plus souvent identique, et c'est une caractéristique qui interpelle toujours celles et ceux qui les produisent. Freud a affirmé que le rêve est l'accomplissement d'un désir inconscient. Mais face au rêve récurrent, cette vision s'effondre face au paradoxe suivant. Si le rêve est l'accomplissement d'un désir, il n'y a alors aucune raison de refaire ce rêve à l'identique nuit après nuit. Ce à quoi les défenseurs de la vision freudienne répondront qu'un désir, de par sa nature, ne peut pas être satisfait entièrement. Ce à quoi je souscris. Donc, on ne peut pas affirmer que le rêve est l'accomplissement d'un désir. Face à ce paradoxe, je propose de considérer le rêve plutôt comme un désir d'accomplissement. Et pris dans ce sens, ces mêmes termes ne signifient pas la même chose. Ce qui illustre d'ailleurs parfaitement mon propos précédent. À partir d'une même langue, selon comment on l'utilise, on peut produire un sens différent, voire opposé, dans le cas présent. Si le rêve exprime un désir d'accomplissement, alors tant que l'on n'aura pas répondu à la question cornélienne que soulève le rêve, ça reviendra. À cela, il faut rajouter la vision jungienne des rêves. Jung considère le rêve comme l'expression de la réalité psychique du rêveur au moment où il fait son rêve. En accord avec ce que l'on vient de dire précédemment, l'existence d'un conflit psychique non résolu explique le phénomène des rêves récurrents qui viennent en rendre compte. Dans le cadre d'une analyse, lorsque le poteau rose est découvert, les rêves récurrents disparaissent immédiatement. Jusqu'à maintenant, on a surtout abordé la conception freudienne du symbole. Il est le lien qui permet à l'inconscient de communiquer avec le conscient, en particulier à travers les rêves. Selon Freud, le symbole serait une sorte de langage universel. Cependant, il n'a pas abordé l'origine de ce mode de communication, ni son mode de transmission de génération en génération. Le mystère reste entier du point de vue de la psychanalyse. Jung a proposé une réponse qui offre une autre perspective sur la psyché humaine. Nous allons donc poursuivre en nous intéressant à la définition et à l'utilisation du symbole chez Jung. Jung considère lui aussi le symbole comme un langage universel, bien que sa conception et son utilisation dans le cadre de l'analyse des rêves soient différentes. Pour bien comprendre, revenons à la question de l'origine du langage symbolique que Freud et la psychanalyse ont laissé en suspens. Jung a toujours entretenu une vision profondément spirituelle du fonctionnement de l'appareil psychique, contrairement à Freud, qui s'est évertué à développer une vision dite scientifique, d'où la référence à l'âme humaine a été expurgée. À la vision athéiste de Freud, Jung a développé une conception déiste fortement influencée par le christianisme, bien qu'il ait montré une grande appétence pour l'hindouisme et le bouddhisme qui ont influencé son œuvre. Jung pose que la conscience humaine est ce qui permet à un absolu de prendre connaissance de lui-même à travers un processus d'individuation qui restaurera l'unité perdue. Mais pour que la conscience humaine se développe, il faut au préalable qu'elle surgisse à partir de l'inconscient. Car chez Jung, les êtres humains ne naissent pas tabula rasa, c'est-à-dire vierges psychologiquement, comme le prônait Freud. Pour Jung, nous naissons inconscients. Et l'existence originelle de cet inconscient personnel est due à l'existence de l'inconscient collectif. Une erreur souvent répandue tend à définir l'inconscient collectif comme la somme des inconscients individuels. Il n'en est rien. L'inconscient collectif doit être considéré plutôt comme un inconscient absolu, d'où émanent les inconscients relatifs individuels. Avec la notion d'inconscient collectif, on est alors davantage dans une conception immanente du principe fondateur, dans laquelle l'inconscient individuel est une parcelle de l'inconscient collectif en chacun de nous. Le but du processus d'individuation, favorisé par l'expérience analytique, est de permettre au conscient de s'unir à cette part d'absolu en nous. Poursuivons. La notion d'inconscient collectif chez Jung est indissociable de la notion d'archétype. C'est un terme qu'il emprunte à Platon, chez qui l'archétype est un principe antérieur et supérieur en perfection aux choses et aux êtres qui en dérivent. Pour Jung, l'archétype est une structure vide, faisant office de matrice virtuelle, à l'origine d'un certain type d'images, d'idées, de comportements, d'émotions, que l'on retrouve partout et en tout temps. Les archétypes sont les structures mêmes de la psyché. Il s'agit de motifs qui ne sont nullement inventés, mais sont au contraire rencontrés en tant que formes typiques qui, spontanément et plus ou moins universellement, en dehors de toute tradition, apparaissent dans les mythes, les contes de fées, les fantasmes, les rêves, les visions et les productions délirantes. Pour mieux saisir le lien intime entre l'inconscient collectif et l'archétype, je vous propose une référence à l'Évangile selon saint Jean, les 4 premiers versets, qui semblent avoir été une source d'inspiration pour Jung. Il existe de nombreuses traductions de ce passage, mais c'est le sens et sa correspondance avec la théorie jungienne qui nous intéresse ici. Donc voici. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu, en tant que principe absolu immanent, va correspondre à l'inconscient collectif chez Jung. Et le Verbe, qui est la première émanation de Dieu, va correspondre à l'archétype. Et l'archétype, tout comme le Verbe, a la caractéristique d'être insaisissable, inconcevable directement pour les humains. L'archétype ne peut être appréhendé qu'indirectement à travers les symboles. Selon Jung, les symboles sont, je cite, « l'expression la meilleure possible pour quelque chose d'inconnaissable » ou qui n'est pas encore connaissable. Pour revenir au Verbe et à la correspondance avec la notion d'archétype chez Jung, que dire de son incarnation dans la chair sous les traits de Jésus-Christ? Bien qu'il soit considéré comme un Messie, en tant que manifestation physique du Verbe, le Christ doit être davantage considéré comme un symbole. Et d'ailleurs, cela rend mieux compte de son rôle d'intercesseur entre Dieu et l'humanité. Comme tout symbole, il est ce lien qui permet de rassembler et d'unir des entités différentes. Il est le lien entre le monde métaphysique et le monde physique. Dans le champ de la psychothérapie, toujours en lien avec l'analyse des rêves, le symbole est le lien essentiel entre l'inconscient et le conscient. Le symbole permet à l'inconscient d'interpeller le conscient sur des sujets qu'il ignore et qui le constituent grâce à des images, des sons, des idées, des sentiments qu'il est à même de comprendre. Le travail du rêve, mis en évidence par Freud, permet de rendre compte de la transformation des représentations inconscientes en messages oniriques, composé de symboles. Je vous invite à réécouter l'émission précédente pour comprendre les processus de condensation et de déplacement à l'origine des rêves. Jung considérait le rêve comme un phénomène non univoque, c'est pourquoi il n'est jamais revenu sur les processus de travail du rêve tels que définis par Freud. Par contre, Jung a développé une méthode d'interprétation très différente de celle de son illustre confrère. En opposition à la méthode freudienne qu'il qualifie de réductive, Jung préfère développer une méthode d'interprétation des rêves basée sur l'amplification. Ainsi, à partir d'un élément du rêve, le rêveur est invité au départ, comme dans l'approche freudienne, à dire ce qui lui vient d'emblée à l'esprit à propos de cet élément. Alors que la méthode freudienne consiste à inviter le sujet à poursuivre selon le flot des idées qui ont émergé, Jung prône un retour à l'élément du rêve. C'est-à-dire, Une fois que le patient a exprimé ce qui lui venait à l'esprit à partir de tel élément, on l'invite à revenir sur ce même élément pour entendre s'il y a autre chose qui lui vient à l'esprit. La méthode d'amplification jungienne permet ainsi de faire émerger les différentes interprétations entrevues par le sujet lui-même. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée à l'analyse de plusieurs rêves selon les trois méthodes d'interprétation que nous avons explorées. Les clés des songes, Freud et Jung, de façon à élargir notre champ de réflexion sur la manière dont s'exprime l'âme humaine à travers les rêves. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves!